Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
On va lire ce matin dans Hébreux chapitre 1, verset 7. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse méditer sur le plan de Dieu, sur la volonté de Dieu pour nous. Amen. Parce que souvent on se dit, mais finalement, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Et on ne voit pas vraiment de quoi il s'agit, ou on pense à notre vie, à ce que nous aimerions faire, et on voit les choses à tellement bas niveau. Et c'est normal, nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Celui qui voit à très haut niveau, c'est le Seigneur. Nous sommes des hommes, et à chaque fois que nous pensons ou que nous voulons quelque chose ou que nous voyons les choses à notre manière, ça sera toujours à bas niveau, plus ou moins bas niveau selon les hommes, mais ça sera toujours à bas niveau. Et il est temps que nous voyons un petit peu, que nous regardions ce que Dieu veut pour nos vies, ce qu'il veut faire de nous. Parce que quand nous savons pas ce que Dieu veut vraiment ou que nous le perdons de vue pour différentes raisons, eh bien, il se trouve que notre vie n'a plus de sens. Et quand ta vie n'a pas de sens, n'a pas vraiment de but, tu marches sans savoir où tu vas, tu marches sans avoir une destination particulière, et je trouve que c'est, il n'y a rien de pire que cela, n'est-ce pas? Dans la rue, on voit tout le temps des gens qui marchent sans savoir ce qu'ils font ni où ils vont. Ils sont là et ils marchent parce que ils ne savent pas quoi faire d'autre. Et il y en a des dizaines et des dizaines. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, bien sûr. Mais dans la rue, on voit des gens qui n'ont rien à faire. Ils sont juste là parce qu'ils ne savent pas quoi faire plutôt que de rester à la maison. Ils sont dans la rue et ils marchent. Est-ce que vous pensez que ce sont des gens qui sont accomplis ou qui sont heureux? Bien sûr que non. Quand tu marches, tu sais où tu vas, tu marches dans une direction et que tu continues dans cette direction parce que tu as une motivation et que tu as une vision. Ta vie est différente de celle de quelqu'un qui marche sans savoir où il va, qui se lève le matin sans savoir pourquoi, qui ne sait pas quoi faire de sa vie. Et Dieu veut que nous sachions quoi faire de notre vie. Amen. Ce passage que je viens de lire nous dit qu'il a fait des anges, de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. Qui sont ses serviteurs? C'est vous et moi. Amen. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Le jour où tu nais de nouveau, tu deviens un serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire que le jour où tu nais de nouveau, tu deviens un pasteur, un évangéliste, un prophète, un apôtre ou un enseignant. Ce n'est pas cela. Parce que le ministère, c'est quelque chose de différent. Mais le jour où nous naissons de nouveau, c'est un appel différent du moins. Mais le jour où nous naissons de nouveau, nous devenons des serviteurs de Dieu. Amen. Autrefois, nous étions des serviteurs du diable, n'est-ce pas? Nous servions le diable, sans le vouloir peut-être, sans le savoir certainement, mais nous le servions d'une manière ou d'une autre, en détruisant nos vies, en détruisant aussi la vie des autres. Amen. Faut que on réalise bien cela, parce que c'est une vérité, c'est une réalité. Nous étions des serviteurs du diable. Le jour où nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui, n'importe quoi. Vous et moi sommes des serviteurs de Dieu. C'est la raison de notre vie sur cette terre après notre nouvelle naissance. Nous avons été recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Si nous réalisons que nous sommes sur cette terre pour servir le Seigneur, si nous comprenons l'objet, la nécessité, la réalité de notre vie, eh bien ça va nous être facile d'entrer dans ces choses. Alors que si nous sommes sur cette terre, même étant nés de nouveau sans aucune vision que le fait de vivre et d'attendre jusqu'à ce que Jésus revienne ou d'attendre jusqu'à le jour de notre mort, en vivant plus ou moins comme les autres, ça ne veut pas dire forcément dans le péché, comprenez-moi bien, vivant plus ou moins comme les autres. Alors, je grandis, je fais mes études, je trouve un travail, je me marie, j'ai des enfants, je vis ma vie, puis un jour je vais mourir et je vais aller au ciel. Ça, c'est une vie qui n'a aucune valeur. Amen. C'est la vie de ce monde. Mais le Seigneur a pour toi et pour moi en réserve une autre vie. Bon, bien sûr, ces choses, ça ne veut pas dire que nous n'allons pas les vivre, mais que ça ne soit pas le but et l'essence de notre vie. Le Seigneur a une autre vie pour nous. Il nous a recréés en Jésus-Christ pour que nous le servions. Et tant que nous ne servons pas le Seigneur dans ce qu'il a prévu pour nous, nous ne serons pas heureux, nous ne serons pas satisfaits et nous ne serons pas épanouis. Nous vivrons dans la lourdeur de ce monde. Un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va à peu près bien, l'autre jour ça va très mal, etc., etc. Vous savez, quand une personne qui a été recréée en Christ pour servir le Seigneur n'est pas exactement à sa place et à faire ce que Dieu veut qu'il fasse, ne pourra pas vraiment s'épanouir, ne pourrait pas vraiment être satisfait. Et on voit que les chrétiens essayent de chercher une satisfaction et ils ont raison de le faire, mais ils ne la cherchent pas au bon endroit. Satisfaction dans leurs relations les uns avec les autres, satisfaction dans le travail, satisfaction dans une activité quelconque, mais n'ayant pas véritablement au fond de leur cœur cette vision, je suis un serviteur de Dieu. Je suis là pour servir, non pas pour être servi. Je suis là pour donner. Amen. Je suis là pour donner ma vie, je suis là pour donner mon temps, je suis là pour donner mon énergie, pour mettre à la disposition de Dieu tout ce qu'il m'a donné. Et mettre à la disposition de Dieu, ça passe par le fait de marcher dans l'ordre que le Seigneur a voulu, c'est-à-dire de mettre à la disposition de l'Église. Amen. Parce que c'est au travers de l'Église que le Seigneur veut travailler, veut agir, veut manifester ses œuvres. Ce n'est pas en dehors de l'Église, n'est-ce pas? Ce n'est pas en dehors de l'Église, ne cherchez pas en dehors de l'Église. Parce que quand on cherche en dehors de l'Église, on cherche au mauvais endroit. Dieu a voulu l'Église pour que chaque chrétien, chaque personne qui est née de nouveau, puisse exprimer ce que le Seigneur a mis dans cette personne. Je sais qu'il y a parfois des problèmes et des problèmes à différents niveaux. Comprenez-moi bien. D'ailleurs, je ne vise personne et je ne vise aucune église. Je ne pense à personne ou à rien de particulier. Ce à quoi je pense, c'est à la volonté de Dieu et que chacun puisse y rentrer et s'y tenir. C'est vrai que parfois dans certaines églises, il y a des serviteurs de Dieu qui ne sont pas vraiment ouverts, qui ne sont pas vraiment sensibles et qui ne comprennent pas vraiment au fond d'eux-mêmes ce que le Seigneur veut pour eux. Les membres de cette église, c'est vrai qu'il y a certaines églises qui ne sont pas des églises avec des serviteurs de Dieu qui se sont trouvés là peut-être par hasard ou parce qu'ils l'ont décidé ainsi et que ça ne vient pas de Dieu. Je connais toutes ces choses et c'est d'ailleurs même pas de cela dont je veux parler ce matin. Et c'est vrai aussi qu'il y a un autre problème parfois et ça ne vient pas des serviteurs de Dieu mais ça vient des chrétiens. Des chrétiens qui veulent bien servir le Seigneur, mais ils ne veulent pas le servir sous une autorité. Ils veulent le servir à leur manière, faire leurs choses, développer leurs trucs à eux, parce qu'ils veulent que personne ne puisse interférer et intervenir dans ce que eux-mêmes ont décidé. Et en cela, il y a un esprit rebelle, n'est-ce pas? On voit dans le monde entier, même dans cette ville aussi, différents groupes, différentes associations qui ne sont pas dans l'Église, parce que la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, ce sont des personnes qui refusent une autorité pastorale. Ils veulent en faire qu'à leur tête. Et qu'est-ce qui se passe quand on en arrive là, quand on ne marche pas dans l'ordre que Dieu a prévu et a voulu? Alors, un travaille ici, un autre travaille là, cette église travaille de cette manière, et au lieu d'être dans l'unité, au lieu d'être dans une coordination divine, on voit que chacun fait des efforts de son côté, et ces efforts ne portent pas vraiment de fruits. Ils ne donnent pas les résultats que Dieu voulait qu'ils soient manifestés. Vous savez, il est temps que ce soit les églises, que ce soit les pasteurs, que ce soit les chrétiens, que tout le monde comprenne que Dieu a une volonté. La volonté de Dieu, c'est l'Église. Amen. Ce n'est pas nous qui avons inventé l'Église. Lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est là que l'Église est née. L'Église est née de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est la volonté du Père. C'est entièrement et complètement la volonté du Père que les chrétiens soient attachés à une Église, qu'ils vivent dans cette Église et qu'ils servent le Seigneur dans cette Église. Amen. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Dieu est notre Père, il est notre Dieu, mais il a choisi et il a voulu que l'Église fonctionne. Il a délégué des personnes qui doivent faire fonctionner l'Église, non pas dans leur propre sagesse, mais selon la parole de Dieu et selon l'onction que Dieu leur a donnée. Être un chrétien qui est assis sous une autorité, ce n'est pas quelque chose de forcément facile. Et forcément et obligatoirement, quand on est chrétien et qu'on est assis dans une église, on doit parfois avoir à faire à certains aspects de notre pasteur que nous apprécions pas forcément toujours, de son caractère, de sa façon de se comporter, de parler, etc. Je ne parle pas des choses très graves ni terribles, comprenez-moi bien, je parle des choses normales. Mais le Seigneur nous a donné quelque chose pour que nous puissions le supporter et le faire. Il nous a dit de marcher dans l'amour et de respecter l'autorité pastorale. Moi, je sais de quoi je parle. Avant d'être pasteur, j'ai été chrétienne dans des églises pendant des années et des années. Et il y avait tel pasteur, il avait tel bon côté et tel mauvais côté. Tel autre pasteur avait tel autre bon côté et tel autre moins bon côté. Mais la question ne se situe pas là. On n'est pas dans l'église pour plaire au pasteur, on est dans l'église pour plaire à Dieu. Et si nous y sommes, nous devons faire ce que nous devons faire. Amen. Donc être chrétien assis dans une église n'est pas toujours très facile, mais sachez que être pasteur dans une église, ça devient vraiment autre chose. Et c'est beaucoup plus difficile. Être quelqu'un qui doit prendre des responsabilités, être quelqu'un qui doit conseiller des gens, qui doit bien sûr les enseigner et qui doit parfois les corriger, c'est difficile. C'est difficile. Amen. Ce n'est pas une chose facile, mais que ça soit facile ou difficile dans un sens ou dans l'autre, peu importe que c'est ce que Dieu veut, et si Dieu le veut, alors nous aussi nous devons le vouloir, et quand nous voulons ce que Dieu veut, et que de chacun dans notre cœur, nous mettons tout en œuvre pour plaire au Seigneur, je vous assure qu'on va y arriver. Amen. Dieu a fait de nous des serviteurs, et pas n'importe quel serviteur. Pas simplement un serviteur qui travaille selon le cours de ce monde, selon les choses de cette vie et qui ne voit rien de spécial. Mais il a fait de ses serviteurs une flamme de feu, une flamme de feu, une flamme de feu. Vous savez, le Seigneur a tout prévu et d'une façon vraiment extraordinaire. Par sa mort et par sa résurrection, l'Église est née. Quelques jours après, le Saint-Esprit a été envoyé. Et quand on lit dans les Actes des Apôtres, et on va lire rapidement ce passage dans Actes 2, chapitre 2, verset 2. « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. » Sur chacun d'eux. Amen. Sur chacun d'eux. Des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Et en fait, on pourrait se poser la question, mais finalement, chacun d'eux, c'était combien de personnes? Est-ce que c'était seulement Pierre, Jacques et Jean? En fait, 11 disciples, parce que Judas était déjà mort puisqu'il avait été se pendre. On ne sait pas exactement combien il y a de personnes, mais dans le chapitre précédent, dans Actes chapitre 1, verset 15, il est dit, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu de ses frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il y avait 120 personnes qui étaient réunies et qui étaient en train de prier. Et certainement que le jour de la Pentecôte, c'était ces mêmes personnes qui étaient là. Amen. C'était ces mêmes personnes. Tout le monde n'a pas forcément été appelé à prêcher, à évangéliser ou autre. Mais toutes ces personnes étaient là dans ce temps de prière. Et le Saint-Esprit s'est manifesté. Il est venu comme un vent violent, comme un vent impétueux. Vous savez, parfois il y a du vent. Et quand des fois c'est une petite brise légère, alors les feuilles bougent un peu. C'était pas ça le vent. Le vent qu'ils ont ressenti, parce que le vent ne se voit pas, bien sûr, qu'ils ont expérimenté le jour de la Pentecôte. Un vent violent. Vous savez, dans certains pays, je sais, en Afrique du Sud, je pense, il y a un endroit où parfois, quand le vent est tellement violent, alors dans la rue, il y a comme des rambardes, comme des barrières métalliques, sur lesquelles les gens peuvent s'accrocher quand le vent souffle trop fort. Ici, on n'a jamais expérimenté ce vent-là, n'est-ce pas ? Chez moi non plus, je n'ai jamais vu ce vent-là. Mais un vent où tu es obligé de tenir et le vent souffle tellement fort que tes pieds peuvent même décoller. Imaginez, un vent violent, un vent impétueux. C'est ça le vent du Saint-Esprit. Amen. Le vent qui balaye toute la poussière, toute la saleté. Un vent qui souffle fort. Et non seulement le vent, mais en plus des langues de feu sur la tête de chaque personne. Vous savez, parfois on voit des tableaux qui ont été peints par des personnes, peut-être qui n'étaient même pas sauvées il y a des siècles et des siècles, et tout le monde regarde ces tableaux avec une telle admiration. Ils peuvent voir les 12 disciples avec une petite flamme, comme une flamme de bougie au-dessus de leur tête. Mais ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, c'était pas seulement les 12. Amen. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Le jour où tu es né de nouveau, tu es devenu un serviteur de Dieu. Tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour lui. Il veut mettre dans ton cœur cette motivation. Il veut que tu sois une flamme de feu. Parce que le but, ce n'est pas d'attirer l'attention sur telle autre personne ou sur nous-mêmes ou sur moi-même. Ce n'est pas ça. Le but, c'est d'attirer l'attention sur Jésus. Amen. C'est ça le but, attirer l'attention sur Jésus. Et vous savez, une flamme, c'est quelque chose qui doit être entretenu. Amen. Que ce soit dans le domaine spirituel, que ce soit dans le domaine naturel, même les plus grands feux, s'ils ne sont pas entretenus, ils vont finir par s'éteindre. Quand on fait un feu, on met certaines du bois, des choses comme ça, on allume et le feu grandit et il est visible. Mais au bout d'un moment, le feu va manquer de, je ne sais pas comment on peut dire, de carburant, dirions-nous. Et qu'est-ce qui se passe? Le feu s'affaiblit et au bout d'un moment, il y a beaucoup de cendres qui sont là. Et quand il y a beaucoup de cendres, au bout d'un moment, on ne voit même plus le feu. C'est juste quelque chose de fumant. N'est-ce pas? Et quand le feu en est à ce point où c'est juste un tas de cendres qui fument, qu'est-ce qu'il faut faire? Secouer les cendres, enlever les cendres et remettre du bois, n'est-ce pas? Et le feu repart et le feu reprend. Amen. Spirituellement, je ne dirais pas que c'est exactement la même chose, mais il y a une vérité là-dedans. Nous sommes des flammes de feu, nous sommes nés de nouveau, nous avons été baptisés du Saint-Esprit et je sais que beaucoup de chrétiens, dans les premiers temps où ils font ce genre d'expérience, leur vie est en feu. Ils sont en feu pour le Seigneur. Il n'y a pas besoin de les supplier pour qu'ils viennent à l'église. Non seulement ils viennent, mais ils viennent même des fois avant, alors que, au bout d'un moment, ils viennent en retard ou ils ne viennent carrément plus du tout. Parce que leur feu a diminué et leur feu s'est éteint. Le feu, c'est ta relation avec le Seigneur. C'est quelque chose sur quoi tu dois veiller. Tu dois veiller. Parce qu'il y aura toujours des circonstances, il y aura toujours des choses qui font que tu penses à autre chose, ou tu es fatigué, ou ceci, ou cela, et tu n'as plus vraiment le temps de prier. Et puis, tiens, aujourd'hui, j'ai pas lu la Bible. Ou alors, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours, ça fait 1 semaine. Au bout d'un temps, ça se termine comment? Ça se termine par un tas de cendres. Il n'y a plus de feu. Il n'y a plus de feu. Quand tu lis la Bible, tu réalimentes ce feu. Quand tu prends du temps dans la prière, tu réalimentes ce feu. Quand tu es dans la louange, dans l'adoration, tu réalimentes ce feu. Nous sommes des flammes de feu, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Alors que nous soyons des flammes de feu qui brillent et qui soient puissantes dans ce monde, parce que c'est ce que Dieu veut. Amen. Et si tu marches vraiment dans ces choses-là, dans la volonté de Dieu, dans le cadre que Dieu te donne, dans le cadre de ton église locale, amen, quelle que soit l'église que tu fréquentes, amen, vraiment tu aies cette vision et ce désir, alors tu vas devenir une flamme de feu efficace pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.